kleine échafaud. Ne vous gênez pas, prenez la poussade. Nos coups sont faits pour vos couteaux. Prenez la poussade, notre viande est faite pour vos crocs. Prenez la
ciel, le bleu y est de passage, ainsi que le gris. On sait ça. On sait surtout que le bleu y est de passage. On remarque surtout cela. On a surtout des mots pour dire ça. On ne loupe guère une occasion de le dire, ou de se le dire. On le dit souvent. On se le dit souvent. On prononce bleu souvent. Bleu, bleu. On en a les bulles de salive un peu bleuies, la langue un chouïa schtroumpf, les poumons en azur. C'est une question de morale, d'avoir ou pas le moral sur le bleu. Quand on n'a pas le moral sur le bleu, on se le dit souvent que le bleu y est de passage, fugace, momentané, périssable. Quand on a le moral sur le bleu, on ne se le dit pas souvent. On ne se le dit pas du tout que le bleu y est de passage. On a le bleu, on a le bonheur, on y va, on y est, on s'y roule, on est dans le bleu, on se regarde, on est tout chose d'être tout rose dans le bleu.
Alors c'était ?
C'était Rémi Cecchetto. J'aime bien commencer une émission, on est là pour ça, avec Rémi Cecchetto. C'est son dernier livre qui vient de paraître aux éditions de L'Attente et qui s'appelle « Nous, virgule, le ciel ». Et il y parle évidemment du ciel, en courte prose poétique, comme celle que je viens de lire. Et ma foi, j'aime beaucoup Rémi Cecchetto. C'est pas un hasard, hein. La dernière fois on avait lu, enfin pas la dernière fois, mais il y a quelques temps, on avait lu Petit-Déj, des extraits de, comme ça, d'impressions de Petit-Déj, et après le Petit-Déj, il s'est penché, si on peut dire, sur le ciel. Et j'avoue, je suis en pleine lecture, j'en ai lu que seulement la moitié de ce recueil qui fait quoi, une centaine de pages au format carré, au format CD, c'est presque un petit livre. Et c'est un régal, quoi, c'est des petites considérations anecdotiques et très bien écrites sur, voilà, comme ça, le moral, les sensations, les impressions, en face du vaste bleu. Et comme personnellement je suis un petit peu toquée des nuages, bien voilà, les nuages du ciel, c'était pas loin. Et Rémi Cecchetto est là, c'est parfait.
Donc vous êtes bien sur Radio Pulsar 95.9, on est là pour ça avec ce soir Anthony.
Oui, bonsoir, je suis de retour.
Le grand retour d'Anthony.
Anthony,
ça faisait longtemps.
Ouais, il y avait trop de problèmes techniques dans l'émission, et du coup je viens maintenant que vous êtes un peu plus perfectionné.
Enfoiré. Et Hélène.
Bah oui.
Et puis donc Thomas. Et puis
on
Julianne.
On est pas beaucoup, hein.
Julianne,
welcome. The sky falls. Have clouds for breakfast. If night falls, use stars for streetlights.
Sitting on the pavement with a nice pretty girl talking at my side. We're looking at the police car silently crossing the night. I hope it's gonna take all my sad ideas away. It's big city. But the world is small. It's not love, but
C'était Welcome to Julian, donc un choix de d'Hélène.
Ouais, mais approuvé par Anthony, je pense.
Ah ouais.
Non, toi, tu voulais mettre la première, peut-être.
Non, j'aurais préféré écouter Sébastien Tellier, mais bon, t'as préféré écouter des vieilleries.
Chacun ses goûts.
Voilà.
Mon Dieu.
Donc Welcome to Julian, c'est quand même leur meilleur album. Ils ont fait un album, je crois, et avant, c'était un petit 8 titres.
Ah ouais.
Ouais, il y a un petit 8 titres qui traîne au Transat.
Peut-être. Il y en a, je crois qu'il y en a deux avant celui-ci, mais peut-être que je me trompe en fait. Ou alors il y en a un avant et un après, je sais pas. Mais je crois qu'ils ont fait trois albums au total.
Ah, alors.
Et ils auraient enregistré juste avant de splitter un autre album qui ne serait jamais sorti, mais dont on peut écouter quelques morceaux sur leur MySpace, je crois.
Ils ont un MySpace.
Eh oui.
Incroyable. Ouais. Un groupe mort qui a un MySpace. Enfin, je veux dire, splitter quoi. Mais à quoi ça va faire d'avoir des contacts si on se pisse? Putain, ils sont bêtes. Non, mais en tout cas, c'est quand même bien. Comme tu dis, Alan, maintenant que tu me l'as dit, je vais aller voir leur MySpace.
Là, tout ça pour introduire la rubrique...
Petit livre, hein. Oui, pardon.
Le retour aussi, oh là là.
Retour de la rubrique Petit livre. Petit livre, petite trouvaille.
En fait, personne ne le sait, mais c'est moi qui fais la rubrique Petit livre.
Donc, en fait, il a Alan sur ses genoux et il met la main dedans, comme ça, il fait bouger la bouche.
Mais c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il te prend de dire des choses pareilles, Angel?
Ah, pardon.
Ouais, vraiment, ouais, ça vaut le coup, je vous jure.
Bon, alors, la rubrique Petit.
Ah ouais, un peu de poésie. Allez, rattrapons-nous. Morborigme, une revue littéraire que j'ai trouvé sur le salon du livre de Paris, n'est-ce pas? Parce que sur le stand de l'Île-de-France, il y a plein de petites revues littéraires et de petits éditeurs et de moins petits. Et c'était l'occasion de retomber sur cette revue que je pensais, elle aussi, morte et splittée. Eh bien, pas du tout. Belle longévité. Borborigme au pluriel, c'est au format A5, enfin, format carte postale, 9-14 à peu près, centimètres. Et ça alterne des textes, de la poésie et des très belles illustrations. Et là, j'avoue, je me suis jetée sur le numéro 4 qui date de 2007. Février 2007, il y a deux numéros par an à peu près de Borborigme, notamment grâce aux illustrations de quelqu'un dont je n'ai pas retenu le nom. Julie Redon Aquapulco, ça c'est du nom, ça. Qui fait des très beaux dessins au crayon, notamment de chiens et de chevaux. Et voilà, ma foi, la revue Borborig m'a les qualités, les défauts des revues de littérature qui font parfois un peu jeune, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont pas forcément très aboutis, et d'autres au contraire qui surprennent parce qu'en très peu de temps et très peu de pages, ils nous font plonger au cœur de quelque chose de très personnel, donc ça c'est bien. Et puis le dernier numéro d'ailleurs de ce côté-là était un peu plus abouti au niveau texte. Mais celui-là je l'ai pris pour les dessins. Voilà.
Mais c'est là qu'il y a des BD pas terribles aussi.
Ouais, il y a la partie bande dessinée, il y a une bande dessinée qui subsiste depuis le début, elle est pas super.
D'accord.
Enfin après c'est mon avis, j'accroche pas trop au dessin. Ouais, le propos étant un peu minimaliste.
Ouais, mais t'aimes rien.
Ensuite, ça m'amuse, une petite création aussi de même format, 10-15, hein, carte postale on va dire, des ateliers de l'Arche de Noé et Zone Inondable, encore un que je pensais disparu dans la nature, Mathieu Hier, c'est son nom, c'est comme ça qu'il signe.
Ah, faut que tu dises comment ça s'écrit, ça m'amuse.
Ah oui, pardon, ça, virgule, m'amuse.
Comme une muse.
Comme une muse, poète, bling bling.
Ouais.
Ding, ding, et voilà. Et donc c'est Mathieu Yet qui est un jeune homme qui expose beaucoup en des petits dessins à la plume, un petit peu faussement maladroit, dirons-nous. Ses sentiments, souvent ses sentiments amoureux, ses déboires amoureux. C'est ça que j'aime.
Il expose beaucoup, tu dis.
Non, il expose pas dans des expositions, dans ses dessins.
Ah oui,
c'est une façon de m'exprimer. C'est qu'il met en scène en une page.
Des fois, c'est pas faussement maladroit quand même. Enfin, quand il faisait Zone Optimiste. C'est lui qui faisait Zone Optimiste de bande dessinée. Là.
Zob.
C'était franchement des fois pas terrible. Mais, c'est en même temps, c'est bien parce que tu sens que, ouais, il s'en fout. Enfin, il s'en fout. Il a envie de faire des trucs et voilà. Il le fait contre vents et marées. Quoi.
Il y va, il fonce. Et donc, il y a des pages vraiment très drôles que moi j'aime beaucoup. Même par exemple, on le voit là sur cette page où il est avec ses grandes jambes poilues. Il se dessine assez souvent nu. J'aime bien aussi les hommes qui font d'autographie et qui se dessinent souvent nu. Et ça, c'est un goût personnel. Là, il est nu sauf un pull avec un petit chat sur les genoux. Et il fait oh, petit chat. Assis sur sa petite chaise de bureau, puis en dessous il y a marqué le chat m'amuse. Moi ça m'amuse. Ce genre de blague vraiment pourrie. Non, c'est pas pourri. Bon, d'accord. Bref, voilà, c'était Mathieu Huyet, un petit opuscule de dessin. Celui-là c'est ça m'amuse. Il en a fait d'autres et on peut les trouver en lui écrivant à zoneoptimiste tout attaché @hotmail.com parce qu'il ne les vend pas à prix fixe, il les échange contre une bière, contre un autre truc. Voilà.
Ah, c'est bien.
Ça c'est de la pure auto-édition. Et petit mot sur les petits livres, c'est pas un petit livre, c'est un fanzine, pour saluer la sortie du numéro 7 de La Science Infuse de Jean Bourguignon, dont nous avons parlé dans une émission récente. Et il est très bien ce numéro de La Science Infuse, il parle tout autant d'écologie, il est en écho à l'actualité brûlante en Belgique, où ils essayent encore de former un nouveau gouvernement transitoire, mais pas transitoire, mais enfin, ils essaient désespérément de former un gouvernement. Et quoi ? Donc voilà, j'ai pas compris ce que tu voulais me dire, Thomas.
Mais... Non, excuse-moi, mais touche pas ton micro, ça fait un bruit.
Ah, pardon. C'était une considération voilà. Technique. Excusez-moi, j'arrête de toucher mon micro. Donc dans La Science Infuse, on voit surtout le roi Baudouin à vélo dans les rues de Bruxelles qui essaie de rencontrer ses concitoyens et qui rencontre des gens qui plantent des arbres et qui rencontre des gens qui en ont marre que les gouvernements se reforment ou se reforment mal ou pas. Et le propos écologique dans tout ça, bah, le roi Baudouin, il est un petit peu has-been, mais il est sympa quand même, on dirait. Donc voilà, c'était Jean Bourguignon, La Science Infuse.
T'es sûr que c'est le dernier celui-là ? Parce que il me semble que j'en ai vu un autre, en fait, non ?
Je sais pas,
où il est en vacances.
Il vient de m'arriver. Ah oui, Waiting Holiday. For the Sun.
Ah non, Holiday, je sais pas quoi, non ?
C'est pas Waiting For the Sun qui est numéro 6,
ouais,
celui d'avant. Celui-là vient d'arriver ce mois-ci, donc je pense que c'est
vraiment. Ah ok, ok, non, ouais, c'est bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'il tente de plus en plus de choses graphiquement, il rajoute des trames, ou il fait des planches explicatives, des fois avec des petits bonshommes et tout, c'est... En tout cas, enfin, moi, je le répète, c'est vraiment une. Enfin bon, voilà.
Mais
je trouve ça intéressant comme démarche, quoi. Vraiment, le gars qui s'investit. Enfin, ouais, je sais pas.
Non, parce que ce que j'aime bien, je le disais en le lisant, parce que déjà c'est périodique, il l'envoie par la poste aux gens intéressés, donc on peut le contacter jeanbourguignon@chello.be on peut le recevoir et c'est comme si on lisait des petites chroniques dans les journaux, comme des billets d'humeur un peu, comme des éditos, et en plus il le met en dessin et le dessin apporte aussi vraiment quelque chose parce qu'on est dans une narration et qu'il se permet des petites blagues graphiques ou justement ce que tu dis des expérimentations, ce qui fait que c'est vraiment un discours personnel et vraiment un discours surtout. Pas quelqu'un qui fait
oui voilà, c'est quelqu'un dessiner. Qui réfléchit quoi, vraiment voilà. Et puis même des fois ça, il fait des tentatives même en dessin, enfin il réfléchit en dessinant quoi. Donc ça c'est vachement bien quoi.
Quelle voilà. Classe Jean Bourguignon.
Ah, je crois qu'on s'est encore gouré là sur le 10, non ? Donc, ça marche pas, j'ai l'impression.
T'es sûr que tu as monté le bon truc phono 1 ou phono 2 ?
Ben ouais, pourtant.
Non, je disais que moi, j'ai, du coup, je regrette vachement parce que je t'ai pas écouté sur Bourguignon. J'étais en train de dire ça m'amuse.
Je peux répéter.
Ah ben bravo.
Je crois que j'ai trouvé. On recommence ?
Ouais, d'accord, on va recommencer. Alors, on va continuer à parler de Jean Bourguignon, dont on a déjà abondamment parlé sur les ondes de On est là pour ça. Parce que Anthony n'écoutait pas, désolé, chers auditeurs.
Mais non, donc... je disais, c'est ma muse, je pouvais pas faire autrement.
Bon, allez, c'est bon, là, j'ai calé, on peut y aller.
D'accord. Bon, je vois que.
Menina, eu sou o menino dela. Ela é o meu amor. Eu sou o amor todinho dela. Chama a lua prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha menina, e eu sou o menino dela.
Eu sou o menino dela.
C'était donc Anthony.
C'était donc Os Mutantes, un groupe brésilien des années 60 qui a sorti quelques albums. Deux ou trois, j'en sais rien en fait. Il y a encore deux semaines. Oui, on devait faire un jingle, mais on va le faire après. On le fera après.
On est là pour ça. On est là pour ça. Sur Radio Pulsar.
95.
9.
Voilà. Donc, Os Mutantes, donc, je disais que c'était un groupe en fait des années 60 dont j'ignorais totalement l'existence il y a encore quelques jours. Un ami d'ailleurs s'est bien foutu de moi lorsqu'il a appris que je connaissais pas ce groupe. Voilà. Alors, ils sont d'après
ce soir,
lui.
Je voudrais dire à cet ami.
Oui, voilà. Ouais.
Merci
en fait,
de m'avoir fait
d'après lui, ils sont les créateurs de ce qu'on appelle le fuzz. Alors, allez comprendre ce que c'est cette espèce de guitare qui fait. Voilà, non, tu vois, non. Bon. En gros, bon, c'est un truc qui a été repris largement par des auteurs actuels, type Beck et tout ça. Enfin, voilà quoi. Si, ouais. Et donc, en gros, ce qu'on peut considérer, en fait, il est sorti en 68, à la même époque que Sgt Pepper, et c'est un petit peu le Sgt Pepper de l'hémisphère sud. C'est exactement ça, en fait. Il mélange deux tendances musicales, le tropicalisme et puis la musique psychédélique occidentale. Voilà, et ça donne ça. Et tout l'album est super riche. Moi, je suis assez impressionné. Voilà, Os Mutantes. L'album s'appelle Os Mutantes. Et à la base, en fait, il s'appelait pas Os Mutantes, mais Mutantes seulement. Mais voilà, la traduction fait que
Mutantes.
Bon, j'en sais rien. Je sais pas comment on dit ça. J'ai jamais parlé portugais. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'était Amina Menina. Voilà.
Les morceaux. Amina Menina.
Voilà, mais ça date de quand cet album, hein?
De 1968. Je l'ai déjà dit.
Ah pardon. Ouais, ouais. Mais ils existent encore ou...
Non, ils n'existent plus.
Ils sont pas morts, mais ils ont
splitté. Non, mais je crois que la chanteuse a eu après
un parcours,
mais ouais, on s'en fiche. Moi,
si on parlait de Hong Kong plutôt.
Oui, on fait un petit saut de puce jusqu'à Hong Kong. Ça, c'était brésilien, c'est ça, hein. Et fait, je voulais causer un petit peu d'une bande dessinée que j'ai lu récemment, qui s'appelle L'Enfer de Jade, et malheureusement elle est éditée par Casterman, dont les auditeurs de On est là pour ça savent que tout le mal que j'en pense, mais en tout cas cette bande dessinée, je sais pas trop comment la définir, c'est très étrange. il s'agit d'une... Au début, ça commence, c'est l'héroïne... alors, c'est dessiné dans un style très manga, même si c'est une bande dessinée qui a été faite à Hong Kong par un auteur qui s'appelle Light Tatwing. C'est sa première bande dessinée, je pense, éditée en France. En fait, ça commence par une espèce de course où il y a plein de jeunes gens participent à une course où, en fait, ils se bandent les yeux et ils courent tout droit devant eux. Comme ça, sans s'arrêter. Et alors, bon, le premier truc qu'ils traversent, c'est une route. Alors, il y en a la moitié qui se font écraser. Et en fait, l'héroïne, c'est celle qui survit à tout ça. Et en fait, elle faisait ça pour tenter sa chance. En fait, pour mettre à l'épreuve sa chance. Elle a une veine infernale. Et justement, à l'issue de ça, elle va se retrouver en enfer. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle l'enfer de Jade, parce que le personnage s'appelle Jade. Et je sais pas trop comment décrire trop l'histoire. Elle se retrouve en enfer avec en train de porter son copain qui tout pendant tout l'album a un casque de moto avec un poignard planté dedans. Elle va rencontrer une espèce de malfrat dont on sait confusément qu'il a pour mission de la tuer, ou en tout cas de l'arrêter, ou en tout cas de l'empêcher de sortir des enfers. Et elle va être confrontée aux démons. Alors c'est pas mal, c'est qu'il y a des, bon, il y a des, c'est une histoire plutôt moderne, quoi. Ça, il y a des flingues, des bagnoles, c'est mis en page comme ça peut faire penser à Akira par exemple, ou des choses comme ça. Sauf que c'est une imagination assez délirante, en fait, où comme on est aux enfers, tous les personnages sont immortels, donc ils se retrouvent successivement. Par exemple, le personnage principal, au moment, ses bras sont coupés en deux dans le sens de la longueur, et donc et à l'issue de ça, elle va se retrouver avec quatre bras.
Oui, comme les poireaux quand tu les coupes.
Ou des choses comme ça. Enfin, et une partie du chemin, elle va le faire avec le haut de la tête d'un enfant qui a été décapité comme ça, et qui le haut de la tête juste est très expressif et arrive à dire oui ou non avec les yeux. Donc, c'est super. Enfin, comment dire, j'ai rarement vu une... Bon, c'est vrai que c'est un peu gore, mais on sent qu'il y a une espèce de volonté de... aussi une volonté de parodie par rapport au... On sent que c'est quelqu'un qui est pétri de culture manga, si vous voulez. Enfin, on sent l'influence, par exemple, qu'a pu avoir l'auteur d'Akira sur lui, Katsuhiro Otomo. Et en même temps, on sent qu'il s'en sert pour autre chose, quoi. Il s'en sert pour, dans un but, enfin, c'est assez délirant. En fait, je dis ça parce que c'est pas ce bouquin-là qui me fait dire ça, c'est cet autre-là, mais qui n'est pas paru en France, qui s'appelle East Wing, West Wing.
Attends, tu lis les caractères chinois comme
non,
ça.
Non, c'est marqué là.
Ah non, parce qu'il y a des caractères chinois écrits en énorme sur la couverture. Et je te...
Non, mais comme c'est Hong Kong, c'est aussi toujours une traduction anglaise. Donc il y a East Wing, West Wing, ça veut dire L-Ouest.
Vend-Est.
Non, L. Wing. L-Est, L-Ouest. Alors là, c'est un ouvrage complètement muet. Enfin, il n'y a pas de parole, en tout cas, enfin, pas de texte écrit. C'est une espèce de truc complètement délirant. Alors pareil, c'est ça qui m'a fait penser à Akira, parce qu'il y a des destructions comme ça. D'immeubles, choses comme ça, et on croise des personnages. Alors moi je connais pas les personnages chinois qui sont incarnés dedans, mais on voit bien que c'est pas n'importe quel personnage, quoi, que ça doit être des personnages qui existent, qui sont peut-être des personnages politiques ou des vedettes du showbiz, on sait pas trop. Et en plus dans ça vont apparaître George Bush Junior ou des choses comme ça, donc c'est pétri de symboles. Alors là, par exemple, il fait une espèce de parodie des pubs iPod, donc en fait c'est ce style-là qui est très cliché, il s'en sert pour une espèce de satire, en fait, une espèce de satire, je sais pas, sociale, politique, j'en sais rien. Alors je suis Bodor qui a un peu de ça dans L'Enfer de Jade, enfin bon, voilà, donc un auteur à suivre, en tout cas. Light at Tatooine, ouais, voilà.
Hongkongais.
Donc ça vous...
Si, pas mal. En fait, je suis en train de me dire que le livre chez moi que je t'ai montré, ça doit quand même être lui, mais dans un style moins réaliste.
Ah oui, le petit jaune, là, ouais.
Parce qu'il a un style qui est entre le réalisme et parfois
des trucs
un peu plus simples.
Oui, bien sûr,
que
les visages sont très stylisés, ouais. Il y a un côté, ouais.
Un peu naïf dans le dessin. Enfin, on a l'impression que c'est un dessin d'adolescent, en fait, finalement.
Voilà, ouais.
Mais pas quand tu vois les perspectives et les effets et tout ça, c'est quand même super maîtrisé. Les ombres, etc.
Oui, oui. Ouais, on sent que c'est une espèce de côté un peu brut, dans le sens où il prend d'emblée tous les clichés du manga, il se les approprie, mais il en fait autre chose, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ça que je trouve intéressant.
Ça a l'air plutôt pas mal. Ouais.
Un peu dans le même style, un peu dans le même esprit de quelqu'un qui récupère des styles étrangers pour se les approprier. Il y a aussi Junito, dont j'ai vu le dernier film, donc Mad Detective à Paris. J'espère qu'il va sortir bientôt à Poitiers. Peut-être qu'il est déjà sorti, d'ailleurs. Et
Hongkongais aussi.
Bah oui, c'est un cinéaste de Hong Kong qui avait fait le mémorable The Mission. Je sais pas si vous l'aviez vu, tu l'avais vu toi, Anthony?
Ouais.
The Mission, moi, que j'avais vraiment adoré, qui était une espèce de polar super stylisé comme ça, avec des personnages très typés, avec des espèces de prouesses de mise en scène comme ça. Et Junito, c'est un... Alors, on a vu, il a sorti il y a pas longtemps, il avait fait Élection 1 et 2. Où il se réappropriait, enfin, il faisait à sa sauce une espèce de Scarface à la Brian De Palma ou à un truc à la Martin Scorsese, et qui était, bon, un peu limite. Il y a des moments où, enfin, c'était une espèce de, justement, comme dans Scorsese, une espèce de satire du pouvoir, quoi. C'est que des personnages qui sont assoiffés de pouvoir et qui vont s'entretuer.
Ah, j'étais persuadé que tu avais adoré ce film, hein. Élection 1.
L'action, j'ai bien aimé. Le 2, ouais. J'ai trouvé que c'était un peu too much. Enfin, il va assez loin. Bon, voilà. Et puis, comment dire, quand j'ai vu Mad Detective, je me suis dit, ah ben voilà, là, un cinéaste, il a pas eu autant de moyens que pour Élection, parce qu'Élection, on sentait qu'il y avait des moyens, quoi, quand même. Il y avait des grands mouvements de caméra, il y avait beaucoup d'acteurs, etc. Pour Exilé, qui est juste après, c'est pas mal. C'était aussi pas mal, je pense. Il y avait plein de personnages, beaucoup d'effets de caméra, aussi de grues, beaucoup de décors. Il voyageait pas mal dans l'Asie, enfin, en Chine, en tout cas. Et là, Mad Detective, unité de lieu, presque très peu d'acteurs, 2, 3, 4 maximum, principaux, et une histoire très concise qui tient en quelques lignes, mais assez drôle, et puis tout tient dans la mise en scène, quoi, encore une fois. Et le Mad Detective du titre, c'est un inspecteur, en fait, qui a des méthodes complètement ésotériques. En fait, on s'aperçoit qu'il est aussi schizophrène, qu'il s'imagine qu'il vit encore avec sa femme alors qu'en fait elle l'a quitté, enfin des choses comme ça. Et en fait, par exemple, au début du film, pour résoudre une affaire où une jeune fille a été découpée et balancée dans un escalier, renfermée dans une valise, il se met lui-même dans la valise et il se fait balancer dans l'escalier. Et en fait, il arrive en bas de l'escalier, il sort de la valise et il dit « Je sais qui c'est le marchand de glace !» J'ai trouvé ça trop bien. Et en fait, il va être amené. C'est un espèce de flashback dans le film. Et en fait, il va être amené après. Pendant le film, en fait, il est plus dans la police, mais il y a un jeune inspecteur qui a été un peu son élève, qui va venir le voir pour lui dire voilà, j'ai un cas extrêmement difficile à résoudre. J'aimerais que tu m'aides, quoi. Voilà. Donc c'est. Et alors, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que contrairement un peu aux autres films qu'il avait fait avant, il introduit du fantastique, c'est-à-dire que ce personnage a des méthodes un peu ésotériques, c'est-à-dire qu'il voit aussi les esprits, les démons des gens. C'est-à-dire que par exemple, il y a un moment, il y a le personnage du méchant, on le voit dans la rue, et en fait, lui, on voit à travers ses yeux juste après, et lui, il voit sept personnages différents. C'est les démons qui cohabitent à l'intérieur de cette. Voilà. Et donc, il y a des scènes très marrantes, en fait, où en fait, on voit le personnage, par exemple, ce personnage de méchant qui est en train de mettre en joue un autre, et l'inspecteur, lui, il voit tous ces démons qui sont en train de se disputer pour savoir si on doit tirer ou pas, quoi. Voilà, parce que dans ces démons, il y en a un qui est un peu pleutre, mais il y en a un qui est un espèce de. Voilà, tout ça. Donc c'est assez.
Ah, c'est marrant, ça, je viens de lire cet après-midi une bande dessinée où il y a ce même procédé.
Ouais.
C'est l'œil lumineux de Sandrine Martin, qui vient de paraître à l'an 2 édition Actes Sud. Je rebondis juste là-dessus, parce qu'elle a fait pareil, elle est en proie à un chagrin d'amour au début. Et on la voit qui enfile, qui trouve le pull de son copain qui vient de foutre le camp. Et elle rentre dans le pull, et en fait, par ce pull, elle va rentrer dans sa tête, dans son oreille. Ah. Et à ce moment-là, paf, 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 elle se démultiplie en six personnages qui, toutes, pareil, ont des attitudes, sont elles, à chaque fois. Elle dit on va chercher dans sa tête où est son souvenir et tout. Et mais c'est nous, alors que nous, c'est elle, en fait. Et chacune a une attitude un peu différente, et vas-y, n'y va pas, de toute façon, c'est trop tard, t'es encore amoureuse à fond et tout. C'est ce genre de démon aussi. Qui se démultiplie. Donc pas seulement l'ange et le diable, mais vraiment toutes les facettes de.
Voilà, ouais, ça fait penser dans Tintin, les facettes d'un personnage qui peuvent s'affronter, alors que là, il y en a.
Ah, c'est pas mal, au cinéma, c'est assez rare.
C'est drôle parce que du coup, il n'y a pas d'effet spéciaux, quoi, mais c'est juste, voilà, il met sept acteurs qui sont censés représenter un seul, quoi, et donc qui se disputent comme dans la tête de quelqu'un, quoi.
Et on le comprend bien, ça.
Ah ouais, mais justement, c'est super bien fait. Et en même temps, c'est très sobre, quoi, justement, par rapport à Exilé, par exemple, qui a accumulé les effets un peu, les effets de mise en scène. Là, c'est vraiment très sobre, et parfois assez touchant, parce que le personnage est assez, c'est un personnage assez brisé, quoi, enfin, un peu.
Fragmenté.
non, en tout cas le personnage de l'inspecteur, là, je sais plus comment il s'appelle, le mad détective du titre, c'est un personnage brisé. Donc voilà. Mais un film à aller voir si jamais il passe au Dietrich et au théâtre, par exemple, on sait jamais.
Sinon, ça passe à Paris, une rétrospective.
Ça marche toujours pas, hein, le 33.
T'es sûr que c'est le bon? On est censé écouter de la musique, mais est-ce que c'est le bon fond?
Mimosa, Volca.
Voilà, donc Petit Mimosa, un groupe français de la fin des années 80 pour vous.
Pour vous, auditeur de Pulsar, oh.
Pour vous parler de Michel Gondry, qui était batteur dans ce groupe, bien sûr. Voilà. Et de son film Soyez sympa en bobiné, qui passe en ce moment à Poitiers. Je peux peut-être rappeler l'histoire très rapidement. Be Kind Rewind. Mais d'ailleurs, tout le monde se fiche du titre français de ce film, alors que finalement, c'est la traduction littérale.
Il est un peu laborieux aussi le titre. Soyez sympa en bobiné. Super évident.
Non, il est bien traduit. Mais comme Be Kind Rewind, c'est un peu plus. Ça sonne bien. Be Kind Rewind, Fat Swallow, tout ça. Ouais.
Donc, Be Kind Rewind, c'est le quatrième long métrage de Michel Gondry avec Jack Black, un comédien américain qui a connu quelques succès en fait outre-Atlantique, et Mos Def qui fait plutôt de la musique, lui, je crois, hein, c'est ça. Il est plutôt chanteur. Tu connais pas, toi, Hélène?
Ce nom me dit quelque chose et ouais. La tête.
Je sais
c'est pas d'où.
Il fait du reggae, je crois. Et donc, c'est l'histoire de deux types qui sont gardiens, enfin, qui sont vendeurs dans un. Enfin,
non, il y en a un qui est vendeur dans un vidéoclub et l'autre qui est son voisin qui a le casse de bagnole, en fait. Voilà. Et en fait, pendant que son patron part, soi-disant. Se recueillir sur la tombe de Fats Waller et lui confie le vidéoclub. Il se passe que son camarade du casse, on peut expliquer tout le film, mais de camarade du casse démagnétise toutes les cassettes vidéo, parce que lui il est encore aux cassettes vidéo VHS, et donc toutes elles sont effacées. Donc en fait, la solution qu'ils vont trouver, c'est de refaire tous les films qui sont sur les cassettes.
Parce qu'ils sont quand même assez paniqués que les gens qui viennent louer aient tous des cassettes vierges. Le patron qui a confié le shop, c'est quand même pas important. Et la solution d'urgence pour contenter la première cliente, qui est très importante elle aussi, c'est de retourner le film qui est Ghostbusters. Facile à tourner, quoi. C'est pas mal comme film.
Ouais, c'est rigolo.
Je croyais que t'allais le casser.
Non, c'est juste, c'est pas génial.
Non, c'est une bonne comédie. J'ai trouvé que c'était une comédie assez rigolo. J'ai trouvé que moi ça faisait pas mal penser à Capra, en fait, dans le fait que c'est le vidéoclub est en danger, la maison, la baraque va sans doute être détruite, donc en fait il y a une espèce de, ils vont réussir à créer une espèce, on raconte pas le film, hein. Ne vous inquiétez pas, mais ils vont réussir à, enfin ils vont, on sait pas s'ils vont réussir d'ailleurs, mais enfin bon, il y a cette espèce d'élan que si on n'arrive pas à s'en sortir, il y a les méchants promoteurs qui vont raser la baraque, quoi. Et j'ai un peu cet esprit dans Capra, il y a ça dans, je sais pas, Extravagant Mr. Deeds ou Monsieur Smith au Sénat, il y a toujours cette idée des personnages qui sont un petit peu extravagants, un peu fous, un peu hors de la société, et qui vont arriver à convaincre tout le monde par leur gentillesse, un peu un côté comme ça, quoi.
Mais c'est un peu le cas dans les films qui finalement reprennent, quoi. Dans Ghostbusters,
Miss Daisy et son chauffeur.
Ouais, voilà, ouais.
Ouais, peut-être, ouais, aussi. Peut-être. Ouais. Oui. En fait, finalement, ce qui est intéressant dans le film, c'est cet aspect do it yourself, finalement, que le film promeut finalement. Mais ce que je trouve presque dommage, c'est que le film, qu'on fasse un spectacle de ça, que finalement,
que ce soit de l'action, c'est devenu un spectacle.
Ce que je veux dire, c'est que cette idée du do it yourself qui est très sympathique, c'est au lieu, plutôt que d'aller voir des grosses bouses au cinéma, faites-les vous-même, quoi. En gros, c'est un peu ça.
Vous avez les modèles.
En plus, pourquoi prendre des modèles après tout? Pourquoi pas vous-même prendre une caméra et aller filmer dans la rue et faire vos propres films, quoi? Puis finalement, le film à la fin, c'est plutôt ça, quoi. Je sais pas comment dire. Cette idée qui est proche du Frina, c'est-à-dire tiens, prends une feuille, un crayon, va photocopier et fais ton journal toi-même, ou prends une caméra vidéo et fais ton film toi-même, ou
prends ton téléphone portable
ou prends ton magnétocassette et fais voilà, ou des choses comme ça qui sont plutôt sympathiques et qui sont plutôt de l'ordre de toi citoyen, tu peux reprendre à ton compte tu peux reprendre à ton compte toute l'industrie culturelle qu'on t'impose, quoi, enfin, ou pas reprendre
des choses préformatées, peux te les fabriquer toi-même et tu peux les partager.
Et puis en plus,
ça peut intéresser d'autres gens aussi.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça l'idée du film, quoi. Mmh. Sauf que finalement, c'est aussi un film pas hollywoodien, mais un film américain qui a un certain budget et qui est distribué d'une certaine manière. C'est ça que je veux dire. Tu vois, il y a une espèce, il y a une espèce de contradiction entre la manière dont est fait le film et ce qu'il dit, presque. Je trouve.
Moi, je trouve que il y a surtout une contradiction dans ce que dit le film justement et la façon dont il est diffusé. Oui, c'est vrai.
Oui,
parce
c'est
qu'en fait, ça va
dire.
Plus loin. Enfin, ça va.
C'est
non, mais oui, mais
que
je reprends.
Traduit d'une façon intelligible.
Mais voilà, parce que le film, je trouve que ça va peut-être plus loin que toi ce que tu dis et par rapport au Do It Yourself. C'est en fait le film, il est clairement anti commercial, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il propose aux gens plutôt que de en fait, il propose aux gens de se divertir soi-même.
Bah ouais, ouais,
plutôt
de prendre en charge eux-mêmes leur propre divertissement.
Voilà, ouais. Et donc développer leur créativité, voilà quoi, et ne plus et arrêter de dépenser finalement à droite à gauche comme dans un comme dans un shop quoi de location de vidéos ou au cinéma quoi.
Oui, et puis en plus, à l'intérieur de ça, il y a un des personnages, le patron, qui lui va essayer de faire une enquête chez son concurrent qui loue des DVD, et il s'aperçoit que les vendeurs sont incultes, ils connaissent rien à l'histoire du cinéma, que c'est de la consommation, quoi, enfin que c'est devenu de la consommation, et en fait lui il le prend pour argent comptant, il dit ouais c'est ça qu'il faut faire pour que ça marche. Tu vois, il y a un côté comme ça quand il revient.
Et un peu cynique aussi, parce qu'on sait qu'il a une grosse pression financière, parce que s'il ne paye pas lui-même les travaux pour sauver sa baraque, elle sera rasée pour être remplacée par un gros ensemble. Et donc, on peut se dire aussi qu'il passe l'éponge là-dessus, il se dit, je veux sauver la baraque, et donc moi aussi, je vais faire deux rayons, comédie et
action.
Et mettre 10 copies DVD du même film, et puis plus avoir cette vieillerie dans le fond. Ouais.
Enfin, disons que ce qui est intéressant, parce que c'est ça l'aspect le plus intéressant du film finalement, parce que le truc sur lequel l'aspect sur lequel le film est plus connu, enfin je pense que les gens accrochent le plus, c'est on va refaire des films très connus. Enfin c'est l'aspect référence en fait. Mais finalement cet aspect-là, Gondry, je trouve qu'il a l'intelligence de pas le développer trop.
C'est très court finalement.
Ouais, c'est relativement court. On a juste des petites amorces comme ça. Il y a même des séquences, des espèces de travelling comme ça où il y a juste des petites amorces de films qu'on reconnaît ou qu'on reconnaît
culte,
ou qu'on reconnaît pas,
refilmer,
ouais, voilà, ouais. Ouais. Mais je trouve que c'est plutôt bien qu'il aille pas plus loin, quoi. Parce que du coup, aussi, c'est aussi le travail du spectateur de s'imaginer le reste, quoi. Et je sais que j'ai des copains qui ont vu le film et qui étaient déçus, justement, qu'on en voit pas plus, mais finalement, je trouve que c'est mieux qu'on en voit pas plus, quoi. Parce que le film dit autre chose aussi, quoi. Sous la forme d'une comédie un peu. Qui est la forme d'une comédie un petit peu classique, quoi. Dans la forme, je veux dire, dans le scénario, quoi.
Oui, puis il en a faim aussi.
Surtout, en plus, le film nous interroge sur la façon dont on digère le cinéma, quoi, finalement. Mm. C'est-à-dire qu'il fait référence à des films très grand public qu'on a vus enfants, adolescents ou
beaucoup que même si on les a pas vus, c'est pas
ouais,
grave.
Voilà, ouais,
mais
on les connaît. Et du coup, voilà, quoi, il touche en fait une certaine culture cinéma que assez universelle, quoi. Enfin, si on peut parler comme ça, quoi. Et du coup, ouais, là, ta référence à le fait d'imaginer la suite, enfin voilà, quoi. On l'a déjà nous en tête, quoi. De toute façon, donc voilà, c'était pas la peine qu'il nous montre des choses qu'on avait déjà en tête.
En dehors de ça, il nous montre aussi comment les mecs font pour simuler des effets spéciaux. En fait, c'est du non effet spéciaux presque. Enfin, c'est de l'effet pas spécial, quoi, parce qu'on voit on voit que c'est fait avec des bouts de scotch, mais c'est pas grave. On comprend ce que ça veut dire, quoi. C'est ça qu'il veut dire aussi. C'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des images de synthèse ou des effets pyrotechniques pour faire comprendre un truc.
Et
ça, c'est vachement intéressant.
Bah, de toute façon, c'est ce qui fait tout le charme de son cinéma, quoi. L'aspect bricolé, en fait.
Dans la science des rêves, mais avant, non. Avant ces autres films, non. Bah, non, Eternal Sunshine, il y a plein d'effets spéciaux, au contraire. Même s'il y a un côté.
Mmh. Ouais, c'est vrai. Mmh. Ouais, exact.
Mais déjà, oui, c'est vrai que cet aspect était déjà présent dans la science des rêves, ouais, c'est vrai.
Enfin, disons qu'après, ça, on le retrouve dans ses clips, dans tout son univers. Mmh. Mais moi, je voulais faire raccrocher en fait je voulais raccrocher ce film avec ses précédents finalement, parce qu'il on dirait qu'il y a un travail constant de ce mec avec le fait d'effacer ou de devoir toujours recommencer à zéro, quoi, enfin recommencer un truc à zéro, voilà, quoi, il faut tout refaire. Donc dans Human Nature, en fait, en gros, le c'était un enfant sauvage, quoi, qui apprenait à être civilisé, et donc voilà, quoi, il y avait tout à faire, et ça se faisait par des par des technologies, donc un petit peu gadget aussi. Enfin, moi je me souviens bien du espèce de collier électrique là qu'il avait, et puis on le mettait devant des projections de femmes nues notamment, ou de nourriture, et il fallait qu'il se tienne bien quoi en société. Donc en fait, je trouve que c'est un peu le même principe quoi. Dans Eternal Sunshine,
c'est la mémoire,
qui est complètement effacée. Dans La Science des rêves, alors c'est peut-être moins le cas en fait, mais voilà, il y a quand même l'emprise du rêve sur la réalité. Enfin voilà quoi,
Mais je crois que le personnage est assez angoissé. Je crois qu'il a toujours, il a toujours peur de mal faire. Enfin, il y a un côté comme ça aussi, le côté.
Mais en tout cas, je trouve que voilà, il y a une certaine cohérence dans les quatre films qu'il a fait, qui fait qu'on se retrouve avec des histoires très différentes, mais finalement un thème assez, enfin ce thème là
de
voir tout effacer
et de recommencer,
voilà,
qui est assez on a l'impression que là, en tout cas dans celui-là, que c'est presque utopique quoi, c'est presque faisons table rase et puis recommençons nous-mêmes avec nos propres moyens quoi, enfin un côté comme ça,
ouais, et peut-être des idées révolutionnaires là-dedans.
C'est marrant justement, je l'ai trouvé pas si révolutionnaire que
le film, non,
je l'ai trouvé très joyeux, comédie, mais finalement assez résigné. Peut-être que j'ai une interprétation tranchée de la fin qui est finalement ouverte, mais
ouais.
Je me dis, c'est une contrainte économique qui pousse à la créativité comme souvent, finalement. Que ceux qui font ces films à la main mettent un certain temps à se dire, on n'est pas obligé de refaire des films qui existent déjà, mais une fois de plus, c'est aussi parce qu'on leur a interdit, au final, de le faire.
Oui, c'est vrai qu'ils se mettent à la création presque par accident. C'est vrai.
Par accident, et ensuite à se dire aussi, on peut faire des trucs nous-mêmes par accident, mais la seule chose, c'est pour sauver quelque chose qui, enfin, eux ne le savent peut-être pas, mais qui n'a plus besoin de l'être. Et puis à la fin, pardon, je vais pas tout dire, je vais pas dire la fin, je touche pas le micro. Mais disons juste qu'il y a pas, c'est un peu toujours de l'ordre du divertissement. Ce que le public demande, c'est du divertissement, et ce qu'ils offrent à la fin, c'est un spectacle. Et voilà quoi.
Ouais,
il y a pas de non, mais en même temps c'est génial, mais je veux dire, j'irai pas jusqu'à dire utopique, parce
que les gens vont chercher dans un magasin de location de vidéos.
Oui, bien sûr.
Enfin voilà quoi, si c'est pas pour rien s'ils louent justement Ghostbusters, Robocop, et puis quoi que Robocop c'est contestable, mais voilà quoi, des films pour justement se divertir quoi. Enfin et voilà, et eux ils produisent ça quoi à la fin.
Mais oui, mais le fait de, c'est surtout moi je pense le fait de prendre en main soi-même son propre
petit divertissement.
Ouais, voilà, ça déjà, ça c'est un aspect politique.
Bon,
après, c'est vrai qu'on peut dire bon, à quoi bon refaire Robocop même en pourri quoi. Je veux dire, c'est pas un film terrible quoi. Enfin, allez voir quand même Auditrice parce qu'il passe dans la soirée.
Il passe pas.
Ah bon, pourquoi?
Non,
c'est Ghostbusters.
Ouais, Carrie et puis.
J'ai dit quoi? J'ai dit
Robocop. Boys in the Wood.
Ouais.
Ah oui, d'accord. Pardon. Bah, tant mieux, alors il passe pas.
Par contre, voir Ghostbusters Auditrice, ça doit être pas mal.
Ghostbusters, Carrie et Boys in the Hood qui passe Auditrice, donc vendredi soir.
C'est une nuit, vendredi là.
Donc c'est des films qui sont cités dans Soyez sympa, Robin.
Pas mal, beau programme. Voilà. Et donc, Soyez sympa en bobiné, ça passe encore longtemps, Auditrice, au moins 15 jours.
Oui, c'est ça, ouais, deux semaines. Pas. Non, mais après, il y a tout un truc qui est quand même assez intéressant dans le film aussi, c'est l'aspect justement cinéma de quartier, quoi. Il faut, et c'est justement, et c'est marrant parce que ça ressemble vraiment à ce qu'essaye de faire parfois un cinéma comme l'Auditrice, quoi. Et Gondry, finalement, est le premier à regretter la disparition des cinémas de quartier à Paris quand il habitait à Paris. Et il essaye de reproduire dans ce film ce que lui a vécu un peu plus jeune. Enfin moi je sais pas, je le sens comme ça quoi.
Je pense qu'il y a ça parce que même dans la dernière projection, on sent qu'il y a c'est presque comme les débuts du cinéma. Quoi.
Ouais, bah ouais,
oui,
c'est
en plus
ça,
il refait un film qui est un faux vieux film. Pardon.
Ça y est, t'as tout dit.
J'ai rien dit du tout.
On va encore se faire engueuler pour raconter le film.
Mais non. C'est le mieux. C'est quand il faut un film porno avec des cochons d'Inde.
Ah oui, là c'est pas mal ça.
Bon, en tout cas c'est un film vraiment inventif, puis finalement c'est terrible, on est quand même assez d'accord sur ce film.
Bah moi je sais pas, je l'ai pas vu.
Non, c'est vrai, tu l'as pas vu, t'es gonflé.
Quelle honte.
Bah moi je trouve, enfin voilà, le gros bémol que je mets, c'est ce que j'ai dit au début quoi. C'est
que, grosse production, film inventif.
Bah oui, il faut dire que c'est quand même Luc Besson qui distribue ce film via sa société de distribution, à savoir EuropaCorp. Et voilà, qu'ils étaient de toute façon que sa société de distribution ne voulait pas céder au départ le film au cinéma indépendant de la ville, sous prétexte qu'il fallait faire du chiffre avec. Donc voilà.
C'est en total
paradoxe avec le contenu du film et l'idée qu'on peut nous s'en faire en tout cas.
Ouais. Voilà. D'ailleurs, l'affiche, en fait, dans le film, ils disent que les films sont suédés. Ça veut dire ils sont suédés quand ils sont copiés, refaits en fait. Et l'affiche du film de Gondry dit une comédie suédée de Michel Gondry, alors que le film n'est pas du tout comme ça. C'est un film qui a une forme complètement classique de film américain, quoi. En fait.
Après, il y a un petit souci quand même, c'est que c'est Gondry qui a fait le scénario, ou aidé par un autre, j'en sais rien. Et quand même, les deux premiers étaient écrits par Charlie Kaufman, qui est quand même un auteur un petit peu décalé dans le cinéma américain, et voilà quoi. Et du coup,
c'est sûr, ouais. Il a fait dans la peau de John Malkovich, Human Nature, Adaptation,
qui était assez compliqué comme fort. Film.
Et puis, donc Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je ne sais pas s'il en a fait d'autres depuis, d'ailleurs, mais ça fait un petit moment quand même, Eternal Sunshine.
Ouais. Et le rapport avec Jonas Mekas?
Ouais, oh, c'est lointain. C'est juste que l'idée du film que je trouvais sympathique de c'est pas prendre, dans le cas de Mekas, c'est pas prendre en main son divertissement. C'est juste que ça m'a rappelé le manifeste contre les 100 ans du cinéma qu'il avait écrit en 96. Donc, vous voulez que je vous en lise des extraits?
Oh, lis tout. C'est pas très long.
Ouais, je sais pas. Ouais, je pense qu'on a le temps. Je vous lis tout. Avec Jonas Mekas, on se situe quand même clairement dans le cinéma expérimental, dans le cinéma. Mekas, c'est un cinéaste qui a fait beaucoup de films en journal filmé, par exemple, qui a beaucoup bossé avec Andy Warhol, qui est d'origine lituanienne et qui s'est retrouvé à New York à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Je vous lis ce qu'il écrit en 96 en constatant ce qui se passe, qu'est-ce qui est fait pour le centenaire du cinéma. Bon, ça va pas prendre longtemps.
Non, ça va, une page.
Donc, manifeste contre le centenaire du cinéma. Comme vous le savez, Dieu a créé cette terre et tout ce qu'il y a dessus. Il pensait que tout était formidable, tous les peintres, les poètes, les musiciens chantaient et célébraient la création et tout allait bien, mais pas vraiment. Pas vraiment. Quelque chose manquait. Alors, il y a à peu près 100 ans, Dieu décida de créer la caméra cinématographique. Et il l'a fait. Puis, il a créé un cinéaste et il lui a dit « Voici un instrument appelé caméra. Maintenant, va et filme. Célèbre les beautés de la création, les rêves de l'esprit humain et amuse-toi. » Mais le diable n'a pas aimé cela. Alors, il a placé un sac d'argent devant la caméra et il a dit au cinéaste « Pourquoi voudrais-tu célébrer les beautés de ce monde et de son âme alors que tu pourrais faire de l'argent avec cet instrument ?» Eh bien, croyez-le ou non, tous les cinéastes ont couru après le sac d'argent. Le Seigneur réalisa qu'il avait fait une erreur. Alors, quelques 25 années plus tard, pour corriger son erreur, Dieu créa les cinéastes indépendants d'avant-garde et il leur dit « Voici la caméra, prenez-la, allez dans le monde, chantez la beauté de toutes les créations et amusez-vous. Mais sachez que vous traverserez des temps difficiles et que jamais vous ne gagnerez de l'argent avec cet instrument. » Ainsi parla le Seigneur à Viking Eagle... Je vous lis, là, il y a une liste de cinéastes. Ainsi parle le Seigneur à Viking Egeling, Germaine Dulac, Jean Epstein, Fernand Léger, Dimitri Kirsanov, Marcel Duchamp, Hans Richter, Louise Buñuel, Man Ray, Cavalcanti, Jean Cocteau, Maya Deren, Sidney Peterson, Kenneth Anger, Grégory Markopoulos, Stan Brakhage, Marie Menken, Bruce Bailly, Francis Lee, Harry Smith, Jack Smith, Ken Jacobs, Ernie Gare, Ron Rice, Michael Snow, Joseph Cornell, Peter Kubelka, Hollis Frampton, Barbara Rubin, Paul Charitz, Robert Beavers, Christopher McLean, Kurt Crane, Robert Brer, Dor O, Isidore Isou, Tonino de Bernardi, Maurice Lemaître, Bruce Conner, Klaus Wiborny, Boris Lehmann, Bruce Elder, Taka Limura, Abigail Child, Andrew Noren et tant d'autres à travers le monde. Ils ont pris leur Bolex, leur petite caméra 8 et Super 8, puis ils ont commencé à filmer la beauté de ce monde et les aventures complexes de l'esprit humain. Ils éprouvent beaucoup de bonheur à le faire, et les films ne rapportent pas d'argent et ne sont pas ce qu'on appelle utiles. Et les musées à travers le monde célèbrent le centenaire du cinéma, ce qui leur coûte des millions de dollars et que le cinéma rapporte, devenant tous gaga avec leur Hollywood. Mais aucune mention n'est faite de l'avant-garde, des indépendants, de notre cinéma. J'ai vu les brochures, les programmes des musées, des archives et des cinémathèques à travers le monde, je sais de quel cinéma ils parlent. Je veux saisir cette occasion pour dire ceci. En ces temps d'énormité, de films à grand spectacle, de productions à 100 millions de dollars, je veux prendre la parole en faveur du petit, des actes invisibles de l'esprit humain, si subtils, si petits qu'ils meurent dès qu'on les place sous les sunlight. Je veux célébrer les petites formes cinématographiques, les formes lyriques, les poèmes, les aquarelles, les études, les esquisses, les cartes postales, les arabesques, les triolets, les bagatelles et les petits chants en 8 mm. En ces temps où tout le monde veut réussir et vendre, je veux célébrer ceux qui sacrifient leur réussite sociale quotidienne à la recherche de l'invisible, du personnel, chose qui ne rapporte pas d'argent, pas de pain et ne font pas entrer dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire de l'art ou toute autre histoire. Je suis pour l'art que l'on fait pour les uns pour les autres, par amitié, pour soi-même. Je me dresse au milieu de l'autoroute de l'information et je ris parce que le battement d'aile d'un papillon sur une petite fleur quelque part suffit, je le sais, à changer en profondeur le cours entier de l'histoire. Le doux petit bourdonnement d'une caméra Super 8 dans le sud-est de Manhattan et le monde ne sera plus jamais le même. La véritable histoire du cinéma est l'histoire invisible, l'histoire d'amis qui se rassemblent, qui font ce qu'ils aiment. Pour nous, le cinéma commence à chaque nouveau bourdonnement de projecteur. À chaque nouveau bourdonnement de caméra, nos cœurs s'élancent, mes amis. Jonas Mekas, le 11 février 1996 à l'American Center à Paris.
Voilà. Mmh. C'est plutôt chouette, hein.
Pas mal, quand même.
Moi, j'aime bien ce texte.
Ouais. C'est une vraie idée du cinéma.
Mmh. Ouais, voilà, ouais. Il l'a dit à un moment où... En fait, c'est vrai quand même que pour le centenaire du cinéma en 1996, on a célébré quoi ? C'était quoi 1896 ? 1896, c'est la première projection publique. Donc la première projection payante par les Frères Lumière. Donc c'est surtout ça qu'on a...
La naissance de l'économie du cinéma.
Parce qu'en fait, le cinéma, les caméras, la pellicule, ça existait déjà avant. Donc voilà.
Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire du film de Michel Gondry ?
Bah, je sais
pas. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Il aurait dû
faire gratuitement. Je veux dire, par rapport à ce que dit Mekas.
Oui, enfin non, mais par rapport à son discours à Gondry, finalement, voilà quoi, et au fait que lui-même finalement propose d'alimenter davantage le côté adverse. Enfin, tu vois, c'est.
Ben oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment une ambiguïté dans, je sais pas, dans la manière, dans ce que dit le film et comment il est fait et comment il est distribué quoi.
C'est sûr. Hein. On fait, on le brûle ou
on en parle quand même.
On le brûle ou on sauve.
Non mais allez le voir et puis allez le voir, envoyez-nous des emails et on lira le courrier des auditeurs.
Ah oui, envoyez-nous des emails.
C'est quoi déjà l'adresse ?
k@free.fr.
On est là pour K.
Oui, parce qu'il n'y a pas de CD sur Internet. Enfin.
Et vous pouvez aller voir notre site aussi http://. On est là pour k.free.fr.
Mais on est sur quelle radio déjà ?
On est sur Radio Pulsar.
95.9. Alors toutes nos émissions sont à réécouter. Je signale d'ailleurs qu'on a oublié d'enregistrer celle de la semaine dernière. Donc si par hasard quelqu'un nous écoute et a par bonheur enregistré,
tu rêves, quand
par
même.
Bonheur enregistré la dernière émission, qu'il nous contacte à onestlaporca@free.fr.
Et
merci
aussi
beaucoup.
L'émission du 11 novembre qui était vraiment très réussie et que même un auditeur nous a dit qu'il regrettait qu'elle ne soit pas enregistrée. Alors si vraiment des auditeurs de Pulsar avaient enregistré notre émission du 10 novembre. 2007, ça serait sympa.
On récapitule.
Ça nous ferait plaisir. Alors, de quoi on a parlé ?
Alors, on a parlé de... Le premier, c'était Rémi Tchétchéto.
Oui, c'était Nous, le ciel, aux éditions de L'Attente.
Ensuite, on a
écouté... passé Sébastien Tellier, L'amour et la violence.
N'importe non, quoi, non. On a passé pas...
Oshmutantesh.
Non, c'était Welcome to Julian, l'album pardon. Surfing on a T-Bone.
Vous paierez rien pour un
temps. Oh non, pitié. Ensuite, on avait fait les petits livres avec...
Ah oui, la revue Borborygme au pluriel qu'on peut trouver sur leur site borborygmes.org. Et puis aussi Ça, virgule, m'amuse, un petit livre de Mathieu Yet qu'on peut se procurer en lui écrivant à zoneoptimiste@hotmail.com. Et puis aussi La science infuse de Jean Bourguignon que l'on peut se procurer en lui écrivant à jbgg@chello.be.
Ah ouais, lisez La science infuse, c'est important.
Ensuite, on a écouté Sébastien Tellier, L'amour et la violence.
Non,
c'est toi. Ça suffit. C'est sûr. Non.
Ah. Oshmutantesh.
Vous verrez la semaine prochaine.
On a parlé de Hongkongais.
Alors, on a parlé de Mad Detective, donc un film de Johnny To et Waika Fai. J'ai oublié de le dire, c'est son scénariste habituel, mais ils l'ont co-réalisé cette fois. Et parlé aussi d'un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Light Tatatwing, qui a sorti un livre qui s'appelle L'Enfer de Jade.
Chez Casterman.
C'est une grosse maison d'édition belge.
Et qui a sorti aussi un livre dans une maison d'édition hongkongaise qui s'appelle Zuni, et qui s'appelle East Wing, West Wing. Alors peut-être vous pouvez vous le procurer sur internet. Sachez que c'est muet, en fait. C'est sans parole. Donc,
on comprend.
Enfin, moi j'ai pas bien compris quand même. Bon.
Et ensuite, on a écouté Sébastien Tellier, L'amour et la violence.
On a écouté oui, parce qu'on a parlé de Michel Gondry.
Voilà, on a parlé de.
Donc, Soyez sympa, Robinet, que je n'ai pas vu, mais
dont on dira jamais,
d'autant plus objectif.
Dont on ne dira jamais assez qu'il passe au Dietrich en ce moment et qu'il y a une soirée, donc vendredi soir, avec des films qui sont cités dans.
Dans Soyez sympa, Robinet.
Dans Soyez sympa, Robinet. Voilà. Et donc j'ai lu, moi, le manifeste anti-100 ans du cinéma de Jonas Mekas, qui date donc de 1996. Voilà.
Puis là, on peut peut-être écouter.
Ah oui,
un disque, non ?
Que tu as porté.
On n'a pas le temps.
Allez, si on a le temps, avant les infos.
C'est un CD, il
n'y
aura pas de problème.
Il y aura pas de problème.
C'est les Heartwoods.
Allez,
good.
À la semaine prochaine.
C'était On est là pour ça.
Sur 95.9 revient la semaine prochaine.